Catherine Gaudreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se
lève. Parce qu'on disait cette semaine dans un article, c'est un véritable fléau. Alors, Gabrielle n'est pas la seule. Bonjour, M. Tanguay.
Bonjour, Mme Gaudreau.
Bonjour. Alors, les recours pour Gabrielle ou quelqu'un qui se fait voler soit son colis ou qu'on est allé fouiller dedans, c'est quoi les recours possibles?
La loi sur la protection du consommateur comporte une section sur ce qu'on appelle le contrat conclu à distance. Donc, ça touche les achats sur le web, mais aussi ce que vous pourriez commander par téléphone, par la poste, par texto ou peu importe. Et donc, dans ces dispositions-là, il y a des choses qui sont prévues si vous ne recevez jamais le colis. Et de notre point de vue, se faire voler un colis, c'est l'équivalent de ne jamais le recevoir. Dans le cas de votre collègue, c'est assez spécial parce qu'elle l'a reçu seulement à moitié. Donc, bon, ça, c'est assez inusité qu'on prenne la peine de fouiller dans la boîte pour choisir ce qu'on veut voler et laisser le reste là. Mais ça vaudrait quand même la peine de tenter la chose. C'est qu'il n'y a pas de limite de temps pour exercer un recours quand on ne reçoit jamais le colis. Quelqu'un pourrait être très patient puis attendre des mois et des mois que son colis arrive et finalement décider d'annuler la commande parce que la loi nous donne un droit d'annulation et oblige le commerçant à nous rembourser dans les 15 jours de cette annulation. Si, après avoir dûment annulé, le commerçant ne nous rembourse pas, on peut se retourner vers l'émetteur de la carte de crédit avec laquelle on a payé l'achat pour demander une rétrofacturation. Et encore là, l'émetteur de la carte de crédit, si c'est fait dans les délais et de la bonne façon, est obligé de vous rembourser. Ça veut dire, petite parenthèse, ça veut dire toujours faire ses achats à distance avec une carte de crédit et ne jamais payer avec des virements Interac ou autrement, parce que ça se rappelle pas. Alors, rappel du paiement. Maintenant, on m'a dit que certains commerçants qui remboursent leurs clients qui se sont fait voler ne prennent plus de commandes de ce client-là. Bon, donc, dans le cas de Gabrielle, il faudra qu'elle évalue la possibilité d'être barrée, si on veut, de chez Amazon. Parce qu'il semble que ça peut arriver qu'on refuse. Ben, tout ça, bien sûr, pour éviter que des gens s'amusent à se voler eux-mêmes leur propre colis. Bon, on présume que c'est pas si fréquent que ça, mais quand même.
OK. Monsieur Tanguay, dites-moi, j'ai une question d'un auditeur, puis je vais faire un lien parce que, bon, la responsabilité, donc, revient au commerçant de nous livrer, de s'assurer que le colis, qu'on l'a bel et bien reçu. Mais il y a quelqu'un qui me demande, parfois, des commerçants vont offrir la livraison gratuite. Il y a des fois où tu payes la livraison parce que, bon, t'as pas acheté pour tant de dollars. Ça fait-tu une différence que je doive payer la livraison ou pas? Ça change-tu la règle?
Ça devrait pas faire de différence. Vous choisissez pas l'entreprise de livraison même quand vous la payez. Vous avez pas de contrat avec elle non plus. Donc, dans la situation normale où on achète et puis c'est le commerçant qui décide de comment ça sera livré et avec qui et à quel prix, à ce moment-là, ce n'est pas de votre responsabilité. Et souvent, les commerçants, justement, vont vous renvoyer vers le transporteur, vers l'entreprise de livraison pour dire, ah ben, appelez-les. Eux, ils disent qu'ils vous l'ont livré. Non, vous avez pas besoin d'appeler. C'est pas votre problème, c'est vous n'avez jamais signé de contrat avec eux. Alors donc, il n'y a pas de lien entre le consommateur et l'entreprise de livraison. Maintenant, c'est sûr qu'il faudra regarder les conditions de livraison. Ça fait partie des renseignements obligatoires quand il y a de la livraison, de bien vous décrire tout ce que ça implique, donc les coûts, mais qui va livrer, etc. Et peut-être que certains commerçants, craignant le vol, vont commencer à mettre des clauses où on accepte explicitement le risque du vol. Par exemple, je comprends que le colis sera laissé au pied de ma porte et j'en prends la responsabilité. Évidemment, il ne faudrait jamais acquiescer à une clause comme celle-là qui pourrait brouiller les cartes, si on veut, quant à la responsabilité du commerçant de s'assurer que vous l'avez bien reçu. Par contre, ce qu'on va voir, c'est des livraisons avec signature. Parfois, on a le choix de demander ou non la signature. C'est certain que ça pourrait être intéressant d'avoir la signature justement pour pas avoir ces problèmes-là, parce que malgré les droits qu'on a, c'est toujours un peu du trouble de les exercer. Alors donc, ça peut être de se faire livrer ou à un endroit où on est sûr qu'il y a quelqu'un qui va répondre à la porte puis qui va prendre le colis.
OK, mais donc, est-ce que dans la plupart des cas, je peux demander à ce qu'on me, on me demande une signature? Est-ce que, comme consommateur, j'ai le droit d'exiger ça, d'être que je faut que je signe
pas.
Avant que... Non, non.
Je pense pas que vous ayez le droit de l'exiger. De toute façon, pour vous, ça change rien parce que s'il n'y a rien de spécifié, c'est le commerçant qui est responsable et qui en prend la responsabilité. Mais il semble que ça puisse arriver aussi. Puis il y a quelques années, c'était toujours avec signature. Maintenant, il y a tellement de colis qui circulent que pour gagner de l'efficacité et de la rapidité, on ne veut plus de signature. Ben, à ce moment-là, c'est pas au consommateur de prendre ce risque-là, de courir ce risque-là.
Bon, il y a des gens qui ont commencé cette semaine, bon, parce que de plus en plus, M. Tanguay, les rabais du vendredi fou, du cyber lundi, là, c'est devenu presque deux semaines à l'avance, mais c'est quand même une journée où il va se faire beaucoup de transactions aujourd'hui en magasin ou en ligne. Qu'est-ce qu'on doit retenir et est-ce qu'on doit de quoi on doit se méfier des achats peut-être lors de ces journées-là? Sur les rabais, entre autres, c'est-tu un vrai rabais? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens pour être prudents?
Évidemment, la loi interdit de faire des faux rabais. Bon, par exemple, de gonfler le prix d'un article, le prix régulier d'un article pour laisser croire à un meilleur rabais. Alors, on voit des fois 70 % de rabais, on regarde ça puis on dit, ben non, c'est pas vraiment 70 %. Ça, c'est difficile à prouver, mais ça demeure interdit. Et je pense que les consommateurs sont de plus en plus aux aguets par rapport au vrai prix des choses. C'est tellement facile de comparer avec Internet que il y a probablement moins de commerçants qui s'aventurent à faire des faux rabais. Il y a toujours aussi la question du retour de la marchandise. On pense à tort qu'on a tout le temps un droit de changer d'idée puis de retourner l'article dans 10 jours ou dans 30 jours. C'est pas le cas. La loi n'exige rien là-dessus. Donc, c'est chaque commerçant qui a sa propre politique de retour et qui l'applique, évidemment, est tenu de la respecter s'il y en a une. Mais il faut se renseigner avant parce qu'en particulier avec la COVID, il y a peut-être des éléments qui ont changé dans les politiques de retour de certains commerçants qui peuvent, par mesures sanitaires, peuvent être plus capricieux sur le retour des marchandises. Bon, donc c'est important de le savoir avant d'acheter, bien sûr, parce que ça pourrait être une vente finale et on n'a aucun droit de retour. Ensuite, il y a toujours aussi la question des quantités. On peut vous attirer en magasin avec un article qui a un prix incroyable, mais finalement, vous arrivez là à 9h05 puis il n'y en a plus parce qu'il y en avait trois ou des choses comme ça. Ça, c'est illégal aussi. C'est contraire à la loi. Le commerçant, s'il en a une quantité limitée, il doit indiquer dans sa publicité combien il en a. Alors, ça peut ouvrir la porte à des sanctions de la part de l'Office, un commerçant qui systématiquement aurait des quantités insuffisante pour répondre à la demande.
Mais M. Tanguay, je me trompe-tu? Puis j'ai l'impression qu'il y en a peu de commerçants qui font ça, qui mettent vraiment le nom, parce que souvent, on va avoir quantité limitée. Faites vite. En tout cas, j'utilise des slogans là, surutilisés. J'ai l'impression que peu le mettre le chiffre exact. Mettons, on en a 3, on en a 15.
J'ai vu la SAQ qui le faisait. Effectivement, il y en a peut-être peu qui le font. Mais elle devrait le faire parce que c'est punissable de sanctions pénales. C'est certain que c'est pas une disposition qui est très connue. Peut-être qu'elle n'est pas tellement bien respectée, malheureusement. Ce qu'on veut éviter, bien sûr, c'est sûr que des fois, on est surpris par l'ampleur de la demande. On pense, par exemple, à tout le monde qui achetait de la farine au début de la pandémie pour faire du pain. Bon, ça, c'est un peu exceptionnel. Mais qu'un commerçant qui délibérément en aurait très peu, insuffisamment pour répondre à la demande, il pourrait il pourrait être sanctionné pour ça.
OK, M. Tanguay, donc si les gens ont des questions, besoin d'informations, je sais qu'il y a un numéro de téléphone aussi donc de l'Office de la protection du consommateur, mais tout est bien décrit sur le site Internet également?
Également, oui, effectivement, il y a beaucoup de renseignements sur le site opc.gouv.qc.ca. On vous y attend.
Merci, M. Tanguay.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci. Au revoir. Bonne journée. Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur.